Chapitre 3. Le troisième chapitre présente Jean le Baptiseur sans aucun préambule quant à sa naissance ou à son origine. Il accomplissait la prophétie d'Ésaïe. Il prêchait dans le désert, loin des lieux fréquentés par les hommes. Son vêtement et sa nourriture le distinguaient des autres. Le thème de sa prédication était la repentance, parce que le royaume des cieux était proche. C'était un ministère absolument unique. Quel autre prédicateur a jamais choisi un désert comme sphère géographique de son ministère? Philippe, l'évangéliste, a certes été vers le midi dans un désert pour y rencontrer une personne déterminée, mais la puissance de Dieu était si manifestement avec Jean que les foules sortaient vers lui et demandaient à être baptisées, confessant leurs péchés. Dans cet évangile, le royaume des cieux est fréquemment mentionné. Il l'est ici pour la première fois. Matthieu ne donne pas d'explication, ni n'en rapporte aucune que Jean aurait fournie. La raison en est sans doute que le livre de Daniel avait annoncé la venue d'un jour où le Dieu des cieux établirait un royaume et où tous connaîtraient que les cieux dominent. Par conséquent, l'expression ne devait pas être inconnue à ses auditeurs ou à un lecteur juif. Le même prophète avait eu une vision du Fils de l'homme venant avec les nuées des cieux pour prendre le royaume, ses saints le possédant avec lui. Maintenant, le royaume s'était approché. Jésus-Christ, fils de David, était présent au milieu des hommes. Lorsqu'une œuvre de Dieu, vraie et puissante, se produit, les hommes n'aiment pas en être laissés à l'écart, surtout s'ils sont des chefs religieux. C'est ainsi que nous voyons des pharisiens et des sadducéens venir au baptême de Jean. Mais Jean les recevait avec un discernement prophétique. Il démasquait les caractères du serpent qui étaient les leurs et les avertissait de la colère qui allait venir sur eux. Il savait qu'ils se vanteraient de descendre d'Abraham, mais il leur retire cet argument en montrant que leur origine n'aurait pas de valeur devant Dieu. La seule chose nécessaire était la repentance, et c'est ce que son baptême avait en vue. Mais cette repentance devait être réelle et se manifester par des fruits qui conviennent. Jacques, dans son épître, insiste sur le fait que la foi, si elle est réelle, et pour la vie, doit s'exprimer par des œuvres correspondantes. Ici, Jean demande exactement la même chose en relation avec la repentance. Ces versets, au milieu du chapitre 3, font ressortir ce qui allait mal. Le vrai fils de David et d'Abraham étant là, le royaume était proche, et une simple relation de descendance avec Abraham ne servirait à rien. Moïse leur avait donné la loi. Élie les avait ramenés à la loi quand ils l'eurent abandonnée. Jean ne faisait que leur adresser un clair appel à la repentance, et cela revenait à dire « Sur la base de la loi, vous êtes perdus. Il ne vous reste rien d'autre à faire que de le reconnaître honnêtement, avec humilité et tristesse. » La grande masse, pour sa ruine, n'était pas préparé à cela. Jean annonçait aussi la venue du Tout-Puissant dont il était le précurseur. Il n'y avait pas de comparaison possible entre celui qu'il annonçait et lui-même. Et il le reconnaissait en disant qu'il n'était pas digne de porter même les sandales de ses pieds. Il mettait aussi en contraste le baptême d'eau dont il baptisait avec le baptême de l'Esprit-Saint et de feu. Celui qui allait venir, qui était plus grand que lui, aurait un discernement parfait pour séparer le froment de la balle. Les uns, il les baptisera de l'Esprit-Saint, les autres, du feu du jugement. Et les résultats seront éternels, car le feu sera inextinguible. Ces paroles de Jean doivent avoir été terriblement exerçantes, et elles auront leur accomplissement à l'aube du millénium. L'Esprit sera alors répandu sur toute chair, c'est-à-dire sur tous ceux qui ont été rachetés, et non pas sur les Juifs seulement. D'un autre côté, les méchants s'en iront dans le feu éternel, comme la fin du chapitre 25 de notre évangile le montrera. Entre-temps, il y aura un accomplissement anticipé du baptême de l'Esprit dans l'établissement de l'Église, comme nous le voyons en acte 2. Dans notre chapitre, le contexte indique clairement que le feu est une allusion au jugement, et non pas aux langues comme de feu du jour de la Pentecôte ou quelque autre manifestation de bénédiction similaire. Quand Jésus entra dans son ministère, son premier acte fut de venir auprès de Jean pour être baptisé par lui, et cela malgré l'objection soulevée par ce dernier. La protestation de Jean a servi à mettre en évidence le principe selon lequel le Seigneur agissait. Il accomplissait la justice. Il n'avait pas de péché à confesser, mais ayant pris la place de l'homme, il était convenable qu'il s'identifie avec les fidèles qui, eux, prenaient par là leur vraie position devant Dieu. C'est ce que des hommes de Dieu avaient fait autrefois, Esdras et Daniel par exemple, confessant comme étant leurs des péchés desquels ils n'étaient guère responsables, bien qu'étant eux-mêmes des pécheurs. Maintenant, celui qui est sans péché est là, et il le fait d'une manière parfaite. Et pour éviter toute confusion, au moment même où il le fait, les cieux lui sont ouverts, première grande manifestation de la Trinité, et la voix venant des cieux déclare qu'il est le Fils bien-aimé en qui le Père trouve son plaisir. Sous la forme d'une colombe, l'Esprit descend sur celui qui va lui-même en baptiser d'autres de ce même Esprit.